C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur. Debout les comiques. 96.9. C'est quoi?
Là, on va parler de temps d'écran, Valérie, ouais. Parce que c'est un article de Patrick Lagacé dans la presse d'aujourd'hui. C'est la suite d'un autre article,
exactement.
Je pense. Hein. Ça fait beaucoup réagir. Ben, ça te fait réagir fortement depuis très tôt ce matin.
Il y a
là.
Une semaine, Patrick Lagacé avait écrit un article sur un article que lui avait lu dans un magazine qui s'appelle The Atlantic, magazine exceptionnel, et qui parlait du téléphone intelligent qui bousillait l'enfance. Et que dans le réel,
tellement.
On était plus capable d'interagir avec d'autres humains. On chamaillait pas, on négociait pas, on collaborait pas avec les autres enfants. Puis là, je parle pas de nous en tant qu'adultes, je parle des enfants en tant que tels. Puis qui passaient trop de temps dans le virtuel par rapport au réel. Et que le temps passé entre des enfants dans la vraie vie, là, aux États-Unis, ça avait chuté de moitié. Donc, il a fait un article là-dessus il y a une semaine. Et là, hier, nouvel article qui sort, où il va commencer en disant, bon, premièrement, juste vous dire, là, quand j'écris sur le temps d'écran de nos enfants, moi, je suis coupable aussi. Mon fils a eu accès à un iPad.
Ben ouais.
C'est arrivé souvent que j'arrivais à 18h30, j'avais eu une grosse journée, j'avais fait un détour par l'épicerie parce que le frigo était vide. Je commence à faire de la bouffe, mon enfant, il chigne, il est fatigué, il a faim, les devoirs sont pas faits, puis je disais, tiens, prends mon iPad,
on achète la paix, on achète la paix.
Exactement. Il dit, pendant ce temps-là, moi, boum, je faisais le repas. Après ça, il dit, mon fils a eu son propre téléphone. Je suis ce parent-là. Par contre, là, il réalise que, notamment par le biais du docteur Jean-François Chicoine, qui est pédiatre, que c'est une catastrophe. On n'a pas compris ce qu'on était en train de faire avec nos enfants depuis qu'on leur donne des écrans. Et depuis les 20 dernières années, les écrans qu'on a laissés à nos enfants, quand on va regarder ça dans 20 ans, on va trouver que c'est barbare.
Ah ouais,
ce qu'on a fait. Ouais. Il va expliquer, entre autres, que Jean-François Chicoine, lui, il est pédiatre depuis les 40 dernières années. Et il dit, il y a eu l'individualisme des années 70-80, la surprotection constante des enfants. Ça, c'est le résultat qu'on a actuellement. La montée des écrans dans la vie des enfants, ben, ça fait en sorte qu'ils sont plus sur leur téléphone mobile, sur les réseaux sociaux. Et c'est en 2008 que l'enfance a changé vraiment quand les réseaux sociaux sont apparus avec nos téléphones. Et il dit la troisième étape qui fait en sorte que en 2024, nos enfants, c'est dur pour eux autres, c'est la pandémie. Parce que les enfants arrivent à la maison, ils voient les parents qui sont en télétravail, qui sont encore en pantoufles, puis le cue que ça donne dans leur tête, c'est à la maison qu'on est le mieux. Mm-hmm. Fait que le pédiatre Jean-François Chicoine, il dit, là, de voir nos enfants qui sont surprotégés, En réponse à ce que nous, on a vécu dans les années 70-80, qui voient leurs parents toujours à la maison, puis qui voient que sur les réseaux sociaux, c'est bien hot, ça fait en sorte que là, on a une société à problème, puis à vrai de vrai problème.
C'est troublant parce que je me reconnais complètement, moi, là-dedans. Puis, ouais. Tu dis la pandémie avec l'augmentation, mettons,
de
la nécessité des écrans. Moi, mon gars s'est trouvé dans une zone de confort là-dedans. Puis, ça a été tough de le retourner à l'école. Quand il apprenait, mettons, qu'il retournait en présentiel, ça a été in and out à quelques reprises. À chaque fois, c'était comme pire que de le lever le matin. Là, il y avait une couche de plus de se rattacher à cette vie-là. Ça faisait son affaire de pas voir les autres. C'est quelque chose, là.
Puis, je sais qu'on est nombreux à le faire. T'sais, puis, je veux dire, moi, je m'inclus aussi là-dedans. Puis, je sais que sur la messagerie de texte au 96.9, même téléphonez-nous au 514-790, c'est quoi? 790-2564. Je sais que vous êtes nombreux à vous reconnaître. Puis, la vraie de vraie vérité, là, c'est que, honnêtement, je la vois pas, la solution. Parce que si j'empêche, mettons, là, mon ado de 14 ans est déjà sur les réseaux sociaux. Mais ma pré-ado, là, celle qui est en sixième année actuellement, là, elle a pas de réseaux sociaux. Puis tous les jours, elle nous en parle. Puis elle sent donc bien à l'extérieur de son groupe d'amis.
C'est fou,
puis,
cette pression-là. Dit...
Exactement. Puis si je la mets pas sur les réseaux sociaux quand on va être au secondaire, Christophe, j'ai l'impression que je vais lui faire passer à côté de sa vie à elle. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pour vrai, qu'est-ce qu'on fait?
C'est vraiment... On va s'en jaser. On voudra vous entendre là-dessus. Puis la question est simple, puis en même temps, non. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je me reconnais là-dedans. Puis j'ai-tu abdiqué? Non, c'est vrai qu'on a des vies de fous. Puis moi, j'ai pas l'impression que j'ai abdiqué. J'ai l'impression que je lui fais vivre qu'est-ce qu'il va vivre toute sa vie. Tu comprends? Moi, oui. Je peux pas y interdire l'ordinateur. Je peux pas y interdire. Lui, il va en avoir besoin. Ça va être encore plus vrai, moi, je pense, plus le temps va avancer. Mais j'ai l'impression, en même temps, que j'y enlève de quoi dans sa structure puis dans sa formation.
Mais attends, à la fin, là, quand on a fini de parler avec nos auditeurs, je vais te dire ce que Dr. Chicoan remet de l'avant.
OK.
Et que si on fait ça, en théorie, c'est la solution.
T'es comique? De retour après ceci. Debout les
comiques! 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Manger des fruits, ça peut vous tuer, mesdames et messieurs. Faites pas ça. Essayez d'être le moins santé possible. La preuve de ça, je l'ai, mesdames et messieurs. Il y a un client du Costco à Laval qui a eu la surprise de sa vie en défaisant un régime de bananes. Le gars détache, tu sais, les espèces de mini-régimes là, de 6 bananes pognées ensemble avec une étiquette. Il défait cette étiquette-là et au moment où ça y arrive, le pire qui peut arriver, lui arrive. Il y a un scorpion caché dans les bananes qui l'a piqué. Ça s'appelle un banana scorpion.
Excuse-moi.
C'est une variété de scorpions qui vit dans les bananes et dans les raisins, mesdames et messieurs. Donc, et les bananes provenance du Guatemala auraient fait le chemin. Il y a une enquête de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour savoir comment le scorpion s'est retrouvé là. Pour vrai, ben on le devine là, c'est probablement au moment de la récolte, il s'est immiscé dans les bananes puis ben il a suivi toutes les étapes en étant pas trop inquiété. Il est réfrigéré quand il s'en vient ici. En fait, il est juste tenu comme dans un frigo, mais il est capable de survivre à ça sans problème. Le scorpion, il se met. Tant que la température est stable, lui, il se positionne, il descend, je sais pas, sa combustion interne, il n'y a pas de problème, il peut survivre dans des conditions surprenantes, le scorpion.
Je viens de voir ça, là, c'est pas... Moi, dans ma tête, c'était un petit scorpion.
Ben, c'est quand même un pas pire scorpion.
C'est
il est
très
comme
gros,
dans le fond d'un pot maçon, il prend la place, là, tu sais.
Moi, une bonne pompe de main.
Ouais. J'exigerais ma carte de membre gratuite pour la prochaine année.
La prochaine année, minimalement.
Ah, et puis la version exécutive, là.
Il s'appelle, en tout cas, lui, c'est M. Sancartier c'est Monsieur Normandin, pardon, qui a été piqué, un client donc du Costco, par le banana scorpion. Donc c'est pas impossible qu'il se soit rendu jusqu'ici comme ça. Ben, visiblement, il s'est rendu jusqu'ici. Mais je savais pas que ça pouvait être dans les raisins. Là.
Non, mais est-ce qu'on lui a sucé le venin?
On lui a pas sucé le venin. Je ne pense pas que ce soit dans un danger mortel. Okay. Sinon,
tu penses?
Ben lui il dit, écoute, ça pique, là, mettons une guêpe, ça fait mal. C'est comme deux fois pire qu'une guêpe.
Ok, ok.
Mais non, on lui a pas sucé le venin comme tel. Il n'y a pas eu de problème de contre-indication.
Ah, je sais pas, tout ça m'écœure.
Ah ouais, non, c'est quelque chose de
moi,
bonne
chose. Apparemment que c'est régulier là, dans les cultures là-bas, ce scorpion-là se retrouve là-dedans.
Mais
là,
moi,
t'sais,
mais
il l'enlève.
Chaque fois que j'achète des raisins, j'imagine exactement
moi aussi. Une bibitte dedans?
Hey man, je te le dis, là, je suis une freak du raisin. Quand j'en ramène à la maison, je vide mon lavabo au complet, je mets de l'eau dedans, je flippe mes raisins dedans, je les étale au complet.
Tu regardes.
Oui, je suis terrifiée
moi,
par ça.
Moi, je passe mon jus de raisin dans le tamis. Oh non, je veux pas avoir de restant de scorpion, moi. Mais c'est-tu bon, du scorpion?
C'est quand même bon. C'est Still Loving You, c'est ma préférée.
C'est une des bonnes. Ouais. On oublie ça, je trouve. Souvent, on passe outre, mais c'est un Christy de bon band.
Ça n'était pas si long, on la ferait jouer là.
Oh, ça serait tellement fort.
Mais sinon, mesdames et messieurs, donc, soyez prudents en mangeant des fruits. C'est peut-être dangereux pour la santé. C'est juste ça, moi, le message que je voulais dire. On va aller en musique. C'est Jelly Roll qui nous chante Save Me. Et dans un instant, on va se jaser. En fait, je arrête un petit peu pour vrai. Faut que je lance la question comme il faut. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans vos achats qui n'avaient pas rapport, là. Parce que ce monsieur-là, à Laval, il a trouvé un scorpion. Mais il y en a qui ont trouvé des affaires aussi dégueulasses.
Ah ouais, hein?
Ouais, des morceaux de machine dans le yogourt ou des affaires de même.
Ouais, des souris dans un Big Mac, genre.
Non, arrête.
J'ai déjà vu ça.
Non, arrête.
Ah ouais, je vais vous le trouver.
T'es comique, de retour dans un instant.
Debout, les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le meilleur des comiques, sur demande.
Je suis super content de recevoir Dominique Gagnon de l'entreprise Connect Ego parce qu'il faut être fou pour devenir entrepreneur. Puis je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs dans un paquet de domaines, en agriculture, en restauration, peu importe l'entreprise. Quand on est entrepreneur, selon une étude, il y a 72% des entrepreneurs qui ont déclaré avoir des problèmes de santé mentale comparativement à 48% dans la population en général. Donc, il y a une surreprésentation. Ouais. Ça a tellement interpellé Dominique qui a décidé d'en écrire un livre. Et si l'entrepreneur l'entrepreneuriat rendait fou. Dominique, salut.
Bon matin.
Merci d'être là, Dominique. Être son propre patron, c'est le rêve de beaucoup de monde qui deviennent entrepreneurs, mais t'as constaté que c'était vraiment pas si rose que ça, nécessairement.
C'est effectivement pas si rose, puis tu l'as bien dit. En fait, c'est une thèse au départ du livre. Je me suis demandé, est-ce que je suis devenu entrepreneur parce que j'étais fou, parce qu'il y a clairement un peu de ça, ou je suis devenu plus fou parce que j'étais entrepreneur. Sans vouloir se couper mon propre livre, c'est un peu des deux.
Ah oui, hein? Patrice de Mirabel, il vient nous envoyer précisément cette question-là. Fait que je pense que ça parle vraiment beaucoup aux gens. Toi, qu'est-ce que tu as vécu comme genre de difficulté dans ton entrepreneuriat?
J'ai vécu les deux. Je pense que je suis devenu entrepreneur parce que je fitais nulle part. Il y a énormément d'entrepreneurs qui sont des gens qui se sont fait mettre dehors de l'école. Moi, je suis plus le nombre de fois. Ma mère disait, ils t'ont invité à ne plus te présenter. C'était plus poli que de dire, tu t'es fait mettre dehors, je suis TDAH, j'ai un trouble avec l'autorité, dyslexique, dyscalculique, refusé dans les trois universités où j'enseigne. Fait que j'ai vécu un peu ces revers-là. Je dis souvent, j'ai pas choisi de devenir entrepreneur. Je suis devenu entrepreneur, je fitais nulle part. Puis c'est souvent ça qui arrive quand on entreprend. Mais évidemment, l'entrepreneuriat, un des moments les plus difficiles a été la pandémie. On s'était vu avant la pandémie, on avait signé le Super Bowl, les Jeux Olympiques, la PGA.
Avec ton entreprise
avec
Connect and Go.
On allait faire le tour du monde et là, il y a une pandémie. Il y a deux choses qui ont disparu bien vite durant la pandémie, l'événementiel et l'international. C'est pas mal ce qu'on faisait
les
à ce moment-là.
Ouais. Oui,
donc, on a perdu 98 % de nos revenus. On laisse aller 10 personnes par jour sur Zoom. Et vient avec ça, effectivement, les défis. T'sais, le premier défi a été de tomber dans l'alcool. Je dis souvent, les entrepreneurs, on n'en parle pas beaucoup, mais on s'auto-médicamente très, très bien. Tu sais, énormément d'entrepreneurs que je connais, les 5 à 7.
C'est le réflexe.
Hier, je te donne 5 à 7. T'as 3-4 petites coupes de vin, tu ressors énormément d'alcoolistes, 4 fois plus d'alcoolistes et de toxicomanie chez les entrepreneurs que dans la population normale.
Quand même, hein?
4 fois plus d'idées suicidaires aussi, ça a été ma prochaine étape. Donc, je tombe un peu dans l'alcool. Ça, je suis correct. Assez rapidement, je me rends compte que c'est pas une bonne chose. Et là, je me dis, hey, je vais peut-être faire faillite. Je vais peut-être tout perdre. Puis moi, ça m'était déjà arrivé dans une autre histoire d'entrepreneuriat. On parle de restaurants, le nombre de restaurateurs qui perdent tout. Tu sais, quand tu roules sur le pont, puis tu regardes en bas du pont, puis tu fais, hey, ça serait peut-être mieux, j'ai une assurance vie. Puis le nombre de personnes dans le livre, tu sais, puis moi, j'en avais déjà, déjà parlé publiquement. Il y a plein de gens dans le livre. La fondatrice de Tyzone qui est devenue alcoolique. Oui. Des gens qui disent, j'ai fait 2 tentatives de suicide. La propriétaire des Spaghettini, qui est à Montréal, qu'à Québec. Puis elle dit, garde, je me suis donné une première fois, j'ai promis à ma famille, je le ferai pas une deuxième. Je l'ai fait une deuxième.
Mais c'est fou, Dominique, parce que quand on lit ton livre, on voit tous ces témoignages-là. Puis on n'a pas... En tout cas, moi, j'imaginais pas que pour les entrepreneurs, c'était aussi fort que ça. Parce que... Personne n'en parle. C'est-à-dire que, vu, puisque vous êtes au, tu sais, c'est vous le boss de l'entreprise, tout est sur tes épaules, fait que t'es solide, tu sais.
On est invincible.
C'est de la charge mentale perpétuelle, là, je veux dire. Puis tu dis que c'est pire une petite entreprise qu'une grosse entreprise. Pourquoi?
Ben, la réalité, c'est quand t'as une grande entreprise, généralement, t'as une bonne équipe.
Du monde.
Généralement, t'as du monde, ce qui va donner quand même un petit coup de pouce. Plus t'as une petite entreprise, puis la plus grosse charge mentale, on se le cachera pas, c'est l'argent.
Ouais.
T'sais, du moment où t'es plus capable de payer tes employés, puis les gens oublient, là, souvent, on dit, il y a une séparation entre l'entreprise et l'entrepreneur. C'est une seule personne. Mm-hmm. Quand t'es dans une petite business, là, ta business va mal, tu vas mal. Et le problème, c'est aussi, si tu vas mal, ta business va mal. C'est un petit peu ça, le message du livre.
Mais tu vois, Marie-Philippe, sur la messagerie texte, excuse-moi, Étienne, a dit, je suis 100% d'accord, nous, on n'a pas le droit, entre guillemets, d'avoir un problème de santé mentale puis de prendre une pause. Nos clients, nos employés, tout le monde dépend de nous. Fait qu'on continue, on se lève chaque matin, on boit 3 coupes de vin chaque soir pour arriver à dormir puis à mettre le stress de côté. Ça résonne fort sur la messagerie texte.
Moi, je dirais, on a le droit.
Ouais, c'est ça.
Mais on te garde, Dominique, avec nous. On va aller faire une courte pause circulation. C'est 30 secondes. Dominique Gagnon de chez Connect and Go qui est avec nous. Puis continuez de nous texter comme ça spontanément. Ça nous nourrit aussi. Je trouve ça touchant de vous le lire. Puis Dominique, qui est un invité parfait, pour vrai, il est verbomoteur, puis on a des questions pour lui.
Sur la messagerie texte, peux-tu rappeler le titre du livre? Ça s'appelle « Et si l'entrepreneuriat rendait fou? »
Le podcast de vous les comiques.
Dominique Gagnon, qui est chez de l'entreprise Connect and Go, on parle de son livre « Et si l'entrepreneuriat rendait fou? » C'est ça que j'aime de toi, Dominique, aussi, c'est que t'es généreux de ton expérience. T'as fait deux livres sur le TDA, je pense, TDAH, précédemment. Et tu nous le partages. Puis visiblement, il y a une grosse résonance parmi nos auditeurs.
Lydia, entre autres, qui vient d'écrire en esthétique aussi. Souvent, les gens comprennent pas, tu sais. T'as un salon, tu fais tes affaires.
Ben oui.
Et Lydia a dit, moi, j'étais monoparentale. J'ai eu 2 semaines de congé de maternité.
Ben, ma coiffeur,
je suis retournée dire
ça,
exactement à Dieu, capotait. Fait imaginez, tu sais, ce que ça représente quand, en plus, t'as ta petite business pis t'as ton petit bébé.
Parce que là, tu le disais, on s'en parlait hors d'onde, ça continuait la discussion. Il y a aussi un star system de l'entrepreneuriat au Québec qui est très fort. C'est mondial aussi, là. Il y a des entrepreneurs qui deviennent des espèces de figures de proue, des exemples à suivre dans leur réussite professionnelle, mais on n'a pas tout l'histoire. Le backdrop de ça.
Un bon exemple, je pense qu'il y a 10 entrepreneurs qui ont fait de la une de Forbes. Il y en a comme 7 qui sont en prison aujourd'hui qui ont été accusés de fraude. Là, on parle de Terranos aux États-Unis. Bon, c'est passé. C'est un peu le problème du star système parce que tu deviens avec l'ego et ça donne une image. Tu sais, même moi, comme entrepreneur, quand je regarde ces gens-là, je dis, hein, ça a donc bien l'air facile. Ouais, ça a donc bien l'air fun. Je regarde des dragons qui font des petits chèques de 40 000 puis de 100 000 à gauche puis à droite à tout le monde. Puis toi, t'es là. Hey, je suis pas capable de faire la paye. Je suis pas capable d'aller là et ça te met une pression qui
mais
est
c'est drôle que tu dis ça parce que dans un tournoi de golf, à un moment donné, bénéfice, j'ai joué avec un gars, il valait 100 millions. Puis personne le connaît. C'est un entrepreneur, il a 300 employés pour lui. Puis lui, il roule depuis des années, une entreprise familiale qui va de père en fils. Puis lui, personne sait c'est qui, sauf dans son milieu. Ouais. Mais il est pas dans le star system de l'entrepreneuriat qui ajoute probablement à la pression mentale. Mmh.
Qui ajoute une pression énorme. Puis on n'a pas d'en parler, puis je pense que l'avant-dernier texto était très intéressant. T'sais, le nombre de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais tu peux pas dire ça à tes employés. Tu peux pas dire ça à la maison. Tu vas-tu dire à ta femme « Hey, je vais probablement tout perdre, puis la maison va être saisie. » Ben non. Tu parles de ça à personne, donc tu te retrouves tout seul.
Mais de plus en plus, les entrepreneurs sont sur les réseaux sociaux et nous vendent que tout va bien aussi beaucoup. On dirait que s'ils nous disent que la business a une petite poche d'air, puis il y en a là, récemment là, des business qu'on a entendu, ils se mettent sous la protection de la loi de faillite. Ils sont pas fermés, là. Ils sont pas fermés. C'est juste que on dirait qu'on n'y croit plus dès qu'ils pognent une poche d'air.
Ouais, ben il y a eu un peu aussi ce que j'appelle les influpreneurs. Puis je pense que ça l'a mis un peu à ça. T'sais, quand un entrepreneur a l'air de toujours bien aller. Posez-vous des questions.
Ouais.
Parce que définitivement, là, pour avoir été entrepreneur depuis que j'ai à peu près 14 ans, c'est un roller coaster. C'est sans arrêt, c'est des hauts, c'est
des bas. T'aurais-tu le temps de faire deux posts par jour sur tous tes médias sociaux à chaque jour?
Non, je suis pas sur Facebook pratiquement. Instagram, c'est des photos de mes enfants. Je suis pas vraiment présent là-dessus. Ouais, j'utilise LinkedIn parce que je suis en business, puis ça aide à faire le business.
François Lambert, il a le temps, lui.
On tombera pas là-dessus. Ouais.
Hey, sur la messagerie texte, c'est quelqu'un qui écrit « Je capote, mon conjoint a une compagnie en électricité et ouf, dépression, pression, charge mentale, et j'en parle. Je dois absolument acheter ce livre, c'est quoi le titre? » Alors, je le rappelle, c'est « Et si l'entrepreneuriat rendait fou? » Mais ce que je veux dire aussi, c'est que dans ce livre-là, il y a des solutions.
C'est ça, t'apportes des solutions.
Le plus important, c'est ça, je pense. Là, j'imagine qu'il fallait que tu parles de ça aussi.
Il faut qu'il y ait des solutions. C'est la deuxième cause de mortalité chez les entrepreneurs, c'est le suicide. Avant le cancer. La première, c'est les maladies cardiaques. Ah, c'est relié à l'entrepreneur, je peux vous le confirmer. Et oui, il y a des solutions. La première solution pour l'entrepreneur, c'est de comprendre que le plus gros actif de sa business, c'est lui. Mm-hmm. Et ça, malheureusement, là, comme entrepreneur, on passe en dernier.
C'est le
dernier qui se paye. On mange mal, on boit, on fait pas de sport, on travaille 80 heures semaine, on pense que pas dormir, c'est la solution à tout. Pis la réalité, quand ça va mal, si t'es brûlé, t'es pas en forme, etc., tu vas pas la redresser, ta business. Et le nombre de personnes que c'est trop tard. Tu sais, qui sont rendus au bout du rouleau, puis c'est là souvent qu'ils vont faire un appel à l'aide. Un an et demi à avoir un psy au Québec. T'as bien beau dire « je vais pas bien en ce moment », tu vas finir en psychiatrie. Tu sais, ça va être très, très long à avoir du besoin. Donc moi, ce que je dis aux entrepreneurs, je pense qu'il faut changer ce côté-là. Moi, sincèrement, je me suis mis relativement à avoir une vie plus saine, à diminuer l'alcool, à consulter un psychologue quand ça va bien. Parce que je peux te garantir que dans le business, des fois, t'as besoin d'évacuer des choses, d'être capable de prendre soin de soi. Puis si on fait pas ça, moi, je pense qu'on va avoir énormément de difficultés en entrepreneuriat. Puis les prochains mois, moi, je suis pas très, très confiant. Je connais trois entrepreneurs depuis le début de l'année qui s'est suicidé juste au Québec. Ouais. Évidemment, ça fait pas la une des nouvelles.
On est le 27 mars. Écoute, Dominique, puis dans ton milieu, probablement que le fait que t'ouvres comme ça, j'ai l'impression que tu vas identifier d'autres entrepreneurs qui vont passer par le chemin. J'espère que t'en es sorti. Tu le dis, c'est des montagnes russes. Ça va revenir. Tu vas avoir d'autres défis.
C'est sûr.
Je pense que tu t'es donné des outils. Merci, Dominique. Au nom de tous ceux qui ont même un salon de coiffure, même t'es un artiste. Moi, je suis un entrepreneur à développer ma personnalité, mon produit. On en est plusieurs entrepreneurs, même sans le savoir des fois, puis on a cette charge-là. Merci, Dominique Gagnon.
Je rajoute sur la messagerie, il y a Christian qui a écrit, puis il y a pas tort sur le fait que c'est aussi l'entourage des entrepreneurs qui ont une responsabilité. Il dit, je suis entrepreneur, et tout ce que vous dites est vrai. Chose qui me touche beaucoup, c'est quand les gens de mon entourage me disent, on sait bien, toi, tu fais de l'argent, tu as une compagnie.
C'est fou.
C'est pas ça, puis c'est les gens autour aussi qui doivent voir l'entrepreneuriat d'une façon plus moderne.
Mais écoute, Dominique Gagnon, ce livre-là s'appelle « Et si l'entrepreneuriat rendait fou? » Si vous n'avez pas le temps de le prendre en note, écrivez-nous au 96.9. On va vous envoyer l'information. C'est sorti aux éditions de l'Homme. Ça vous touche énormément sur la messagerie texte, on le voit.
Puis merci Dominique. Puis tu reviens quand tu veux, mon chum. La porte est ouverte perpétuellement. Fait grand plaisir. Dominique Gagnon de chez Connect & Go. Dans un instant, j'ai besoin de
quelqu'un. J'ai ma compagnie. Moi, je vends des photocopies de son livre, si vous voulez.
Tu passes ça là.
C'est 4 piastres.
Charge mentale. Il est vraiment imbécile.
Le podcast Debout les comiques.
Grosse annonce hier que celle de la réforme du droit de la famille, ça va beaucoup changer la vie des conjoints de fait. Et on en jase de ça avec Sylviane Fréchette, notaire, qui est en ligne avec nous. Salut Sylviane.
Allô, allô.
Sylviane, merci de prendre du temps pour nous ce matin. Donc, je commence tout de suite. Si on n'est pas marié, mais qu'on a déjà eu nos enfants, est-ce que cette nouvelle loi-là va nous toucher?
En fait, si c'est voté comme c'est proposé, non.
c'est seulement pour les couples qui vont avoir un enfant qui est né après le 30 juin 2025. Donc, ça s'appliquera pas pour ceux qui ont déjà eu leur enfant, mais ça va être possible pour ceux qui en ont déjà eu de ce qu'on appelle s'assujettir, donc comme faire un opt-in, puis rentrer dans cette formule-là avec une procédure administrative si on veut que ça s'applique à nous.
Donc, Sylviane, ce que tu me dis, c'est que si on songe à avoir des enfants, il y a comme plus de questions à se poser à partir du moment où la loi entre en vigueur.
Exactement, parce que tu sais, ça fait déjà plusieurs années qu'il n'y a plus de distinction entre les enfants qui sont nés en union, c'est d'une union mariée puis hors union mariée. Mais on s'est rendu compte que au moment de la séparation, les enfants n'avaient pas les mêmes protections. Donc oui, indirectement, on vient venir protéger le conjoint et la conjointe non propriétaire, mais c'est dans un premier lieu dans l'intérêt des enfants, pour la stabilité des enfants, mais c'est un régime comme obligatoire qui va s'appliquer automatiquement, mais on va pouvoir faire une option de opt-out, donc d'aller voir un notaire et de se soustraire à certaines parties de ce régime-là.
C'est quoi les biens qui sont inclus dans le régime? Est-ce que c'est comme le patrimoine familial des couples qui sont mariés?
Toi, est-ce que tu veux faire comme dans le quiz musical, puis faire ma job, puis dire les réponses aux questions?
À première vue, j'irais avec...
Non. Sylviane, oui, c'est ça. Sylviane, fais ta job, t'es bien meilleure que lui, pauvre Étienne.
OK. Donc, en fait, non, la loi prévoit que ça inclut la résidence familiale, les meubles et les voitures de la famille, comme dans le mariage, mais ça inclut pas les REER accumulés dans le mariage puis les fonds de pension, donc il y a des petites distinctions à faire.
OK. Puis là, il y a aussi, évidemment, tout le
les cas de figure.
Les concepts des familles recomposées, par exemple. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai deux enfants d'une première union, puis mon chum, il y a deux enfants. Si on décide qu'on déménage ensemble, est-ce que ça change quelque chose?
Donc, non, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas d'enfants en commun. Donc, que ce soit par un lien de sang ou un lien d'adoption, là, la loi fait pas de différence. Mais donc, si vous avez eu chacun des enfants de vos unions, juste le fait d'habiter ensemble, ça vous fait pas rentrer là, sous cette loi-là. Il faut vraiment que vous ayez eu un enfant commun. Ceci étant dit... Comme ceux qui ont déjà eu des enfants, si vous voulez être assujetti à ce régime-là de protection, ça va être possible de le faire, même si vous n'avez pas eu d'enfants communs. C'est ce que j'ai compris.
Mais là, Sylviane, donc, tu es notaire. On comprend que t'as regardé le projet de loi qui a été soumis hier. Mais tu sais, je reprends le cas de figure d'une première union. Chacun des conjoints a deux enfants. Si après ça, tu fais un enfant ensemble, il y a donc un seul enfant qui va être assujetti à ce nouveau régime-là, puis les quatre autres, non?
Ben, en fait, comment ça fonctionne, c'est que le régime va venir créer comme un patrimoine familial, un peu, puis un patrimoine d'union là, parentale, mais c'est pas tant les enfants qui sont assujettis que les parents qui sont dans l'union. Donc, dans le fond, les enfants des premières unions vont avoir été protégés par les bulles, tu sais, comme de leurs parents initiaux, là, disons. Puis, dans la deuxième union, c'est la bulle familiale, donc tous les enfants vont en bénéficier.
OK, je comprends.
En terminant, Sylviane, est-ce que c'est vrai que le conjoint de fait pourra maintenant hériter sans testament, comme c'est le cas, mettons, quand on est marié?
C'est ça. Là, c'est oui puis non. En fait, oui, mais seulement pour ceux qui vont être en union parentale, c'est-à-dire ceux qui ont eu un enfant après le 30 juin 2025 ou qui ont décidé de s'assujettir là, à cette loi-là. Donc, puis il va falloir aussi que les parents aient fait vie commune pendant au moins un an. Donc, ça va être vraiment important que le gouvernement a un bon plan de communication pour justement pas désinformer la population. S'il y a deux conjoints qui sont en deuxième union sans enfants, ils ne sont pas protégés par cette loi-là au niveau de la succession. Il va falloir aller faire un testament pour que le conjoint puisse hériter.
Parfait, merci beaucoup, ma chère Sylviane.
Ouais, un gros merci. Hey, on veut lui dire, je pense qu'on lui dit bye bye.
Oui, bye bye, Sylviane.
Merci
beaucoup.
Sylviane.
Merci.
Bye bye.
Merci. Bye bye.
Le podcast Debout les comiques.
C'est 23.